le magazine des Nations Unies.
Accord de coopération militaire entre la MONUSCO et les PRDC. La mission onusienne se dit prête à appuyer les efforts du gouvernement dans la traite des groupes armés. Des précisions avec le porte-parole de la MONUSCO dans cette édition. Sera-t-il libre ou condamné par la CPI? La réponse, c'est le 21 mars prochain, date du verdict dans l'affaire Jean-Pierre Bemba contre la procureure de la CPI. L'instance judiciaire internationale s'est réunie mardi dernier pour prendre cette décision. Et puis, 690 millions de dollars américains pour assister 7,5 millions de personnes dans le besoin. C'est la somme que les bailleurs de fonds et autres partenaires doivent mobiliser pour réussir le plan humanitaire 2016 en République démocratique du Congo. Enfin, le CICR a réunifié 144 enfants avec leurs familles et soigné plus de 700 blessés de guerre en RDC en 2015. C'est le bilan des activités de cette organisation avec la chef de délégation du CICR dans cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, bon dimanche chez vous et merci de suivre le magazine des Nations Unies. La MONUSCO est prête à soutenir le gouvernement de la RDC dans ses efforts conformément à son mandat de protection des populations civiles. Précision du porte-parole de la MONUSCO, mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, après la signature le 28 janvier dernier de l'accord de coopération militaire entre la mission et les FARDC. Des précisions qui valaient la peine, Jean-Pierre et Lali Coco.
Oui Tina, le porte-parole de la MONUSCO a tenu à apaiser les esprits mercredi dernier pour mettre fin à ce qu'il a appelé une forte propension à opposer la mission onusienne au FARDC sur des sujets qui ne sont plus d'actualité. Pour Félix Prosper Bassé, le gouvernement de la RDC a la responsabilité première et souveraine dans la protection de ses citoyens. La MONUSCO est prête à soutenir le gouvernement dans ses efforts conformément à son mandat de protection des populations civiles. Ces précisions disaient tout sur le nouvel esprit qui doit animer les deux parties dans la mise en œuvre de l'accord signé le 28 janvier dernier. Et selon le porte-parole, les divergences ont été aplanies. Maintenant, il faut regarder dans la même direction et travailler ensemble.
Et vous savez, aussi, quand on est deux à faire un travail, je pense que non seulement on peut le faire plus rapidement, mais on peut le faire avec beaucoup plus d'efficacité parce que les populations qui souffrent ne peuvent pas nous donner des délais.
Une autre question de journaliste, qu'est-ce qui a changé avec la signature de cet accord de coopération? Félix Prosper Bassé répond.
Et beaucoup de choses ont changé. Les requêtes posées sur la table par les autorités congolaises ont été prises en compte. Aussi, les contraintes liées à la mission et les contraintes liées à la mise en œuvre de notre mandat aussi ont été mises sur la table et ont été prises en compte par les autorités. C'est ce qui nous a permis de nous retrouver et de signer cet accord-là. Et je le dis encore une fois, posez la question aux populations congolaises de l'Est, elles vous diront que la signature de cet accord est une chose extraordinaire.
Enfin, le porte-parole de la MONUSCO a conclu en indiquant que les deux parties ont prévu dans cet accord des mécanismes internes pour permettre une meilleure coopération et prendre en compte des mesures en cas de dérapage.
Autre actualité, Jean-Pierre, qui a marqué la semaine qui s'achève, c'est en tout cas le verdict annoncé dans l'affaire Bemba.
Oui, Tina, c'est le mardi 2 février dernier que la chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale, CPI, a fixé au lundi 21 mars 2016 la date de l'audience publique au cours de laquelle sera rendu le verdict dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Selon la CPI, l'audience sera retransmise en direct sur son site internet. Le verdict sera lu en public et peut soit acquitter, soit condamner l'accusé. Pour rappel, le procès de l'affaire Bemba s'est ouvert le 22 novembre 2010. La phase de présentation des éléments de preuve s'est conclue le 7 avril 2014. Le sénateur leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, serait donc pénalement responsable en qualité de chef militaire de deux chefs de crimes contre l'humanité et de trois chefs de crimes de guerre prétendument commis dans le cadre de la situation en République centrafricaine entre 2002 et 2003.
Merci Jean-Pierre Elali.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comment gérer et donc prévenir les catastrophes naturelles en République démocratique du Congo? Le gouvernement et le PNUD ont initié un projet depuis mai 2015. À quel stade se trouve aujourd'hui ce projet? Quelles sont les provinces les plus exposées au risque des catastrophes naturelles? Et surtout, comment peut-on les prévenir? Charles Wasikama, expert et conseiller en l'environnement au PNUD, décrypte pour nous les concepts relatifs à ces phénomènes naturels. Il est interrogé par Jean-Pierre Elali Coco.
Charles Wasikama, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD appuie le gouvernement congolais dans la gestion des risques et catastrophes naturelles à travers un projet lancé en mai 2015. D'abord, Monsieur Wasikama, comment le PNUD définit-il les catastrophes naturelles?
La terminologie que nous utilisons est celle promue par la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies, ce qu'on appelle UNISDR. UNISDR, qui définit une catastrophe comme une rupture grave de fonctionnement d'une communauté ou d'une société qui entraîne des impacts et des pertes humaines, des pertes économiques, des pertes pour l'environnement ou des pertes matérielles, de sorte que la communauté ou la société n'est pas capable de prendre elle seule, n'est-ce pas, en charge ces impacts. Vous voyez que souvent on ajoute l'adjectif naturel. Mais en fait, pour la stratégie internationale de prévention des catastrophes, une catastrophe n'est pas naturelle. Parce que c'est toujours une combinaison des aléas naturels et vulnérabilité humaine, n'est-ce pas, et sociale. Donc il y a aussi un aspect humain, n'est-ce pas, qui entre en jeu. Donc ça commence par des aléas naturels, mais il y a aussi la vulnérabilité qui est parfois sociale et humaine qui fait qu'à la fin, il y a une catastrophe. Parce qu'un aléa n'est pas en soi une catastrophe. Mais c'est quand il y a un enjeu qui est là, n'est-ce pas, des personnes, des vies humaines, des infrastructures, des choses comme ça, et ça peut créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une catastrophe.
Revenons sur le fait, pour le commun des mortels, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret pour qu'on comprenne, par exemple, une catastrophe naturelle?
Oui, on a un exemple qu'on a connu en 2002 en RDC. Vous savez qu'il y a eu l'éruption du volcan Nyiragongo, n'est-ce pas? Bon, en bas du volcan, il y a des gens qui habitaient. Et quand il y a eu la coulée de lave, il y a des gens qui étaient surpris. Si la lave avait coulé dans un désert, on ne parlerait pas de catastrophe. Mais comme il y avait des personnes humaines, des infrastructures dans la zone qui ont été détruites, alors là, ça devient une catastrophe. On a eu, tu vois, 13% de la ville qui a été balayée, qui ont été détruites. Donc, il y a eu 300 000 déplacés. Donc, toutes ces choses-là entrent dans ce qu'on appelle les dégâts.
Donc, ça provoque ce qu'on appelle une rupture sur le plan de la vie tout court ou même de la vie économico-sociale des individus, c'est ça?
C'est ça. Donc, quand on parle de catastrophe, on prend en compte les vies humaines, les infrastructures, l'environnement. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on considère comme enjeux.
Quelles sont les catastrophes naturelles auxquelles la RDC est régulièrement confrontée et surtout leurs conséquences? Vous avez parlé par exemple de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça que la RDC a connu et auxquels elle fait face?
Bon, je crois qu'ici, comme nous venions de parler tout à l'heure, on doit faire la différence entre catastrophe et aléas naturels. Je vais citer les aléas qui menacent régulièrement la RDC.
Et les aléas, ce sont des risques?
Des risques. C'est des phénomènes naturels qui peuvent devenir des catastrophes au cas où, n'est-ce pas, ça crée un impact dans la communauté ou dans la société. Il y a les séismes, donc les tremblements de terre qui sont fréquents à l'est, et quand ça cause, n'est-ce pas, la destruction des infrastructures ou bien la perte en vie humaine dans une échelle telle que c'est dans la communauté, on a besoin d'un secours, d'un appui, etc., ça devient une catastrophe au niveau local, n'est-ce pas? Il y a les inondations. L'année passée, vers la fin de l'année, on a appris qu'il y avait des pluies torrentielles et il y a eu des eaux des rivières qui sont sorties de leur lit et il y a eu même un bombardement. Régulièrement, quand la saison de pluie approche, et quand ça commence d'ailleurs, on apprend souvent au sud Kivu, même ailleurs, mais surtout au sud Kivu, beaucoup de cas ou de glissements de terrain, parce que les gens vivent sous les collines, il y a des affaissements de collines, il y a des gens qui meurent. Donc, ce sont des aléas qui amènent, n'est-ce pas, de risques. Et s'il y a des populations dans les parages, des infrastructures, des biens économiques, il y a des cas contre les dégâts, n'est-ce pas?
Revenons un tout petit peu au projet lui-même. Quels en sont les objectifs et qu'est-ce que le PNUD a déjà fait concrètement dans le cadre de ce projet?
Oui, le projet est né de la volonté du PNUD d'aider le gouvernement à mieux organiser la coordination quand il y a ces genres d'événements.
C'est en 2015.
Oui, en 2015.
L'année dernière.
Ouais, avant ça, il y avait des missions de UNISDR, des consultants du PNUD en RDC. Et le constat était que quand il fallait gérer des crises, n'est-ce pas, les appuis des différents acteurs parvenaient d'une manière peu coordonnée. Donc, il y avait un manque de plateforme, n'est-ce pas, pour coordonner les actions de manière efficiente et efficace. Alors, Ce projet, justement, est venu pour aider le gouvernement à commencer, n'est-ce pas, ce processus de mise en place de cette plateforme. Donc, il y a quatre grands objectifs. Le premier, c'est de renforcer le cadre institutionnel pour la prévention, la préparation, la gestion des risques de catastrophes naturelles. Ça, c'est au niveau central. Mais pendant que l'appui commencerait au niveau central, on a pensé aussi que au niveau local, on devait aussi faire des activités pour pouvoir tirer des leçons en vue d'un passage éventuel à l'échelle. Donc, parmi les provinces qui étaient visées, après discussion, nous avons choisi de travailler avec le Sud Kivu, parce que là, régulièrement, on apprend des choses qui s'y passent et commencer à travailler avec le Sud Kivu. Il y a la protection civile du Sud Kivu qui est déjà actif. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a des universités là-bas. Il y a aussi les humanitaires qui sont là. Donc, on a trouvé que c'est le cas pilote pour le passage de l'échelle. Donc, c'est pourquoi il y a trois autres objectifs de ce projet. Normalement, évaluer les risques, dresser la cartographie des aléas et les systèmes d'alerte précoce au niveau du Sud Kivu, voir comment les renforcer. Renforcer le cadre opérationnel de préparation des réponses aux urgences, la planification des règlements au Sud Kivu encore. Et puis, à la fin, avoir un programme pilote de prévention de réduction des catastrophes au Sud Kivu qui servirait de modèle, d'exemple, n'est-ce pas, qu'on pourrait faire financer. Donc, le programme doit être développé d'abord. Ensuite, nous verrons comment financer cela.
Lorsqu'on parle d'un projet, il y a toujours un financement qui suit. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une idée sur le financement de ce projet?
Pour cette phase qui est appuyée principalement par le PNUD, nous avons eu un appui du bureau d'appui aux projets et aux politiques du PNUD. C'est ce qu'on appelle BIPPS. Dans le temps, on parlait de BCPR. Maintenant, il y a un bureau qu'on appelle BIPPS qui a donné 500 000, n'est-ce pas, pour commencer.
500 000 dollars.
Dollars, voilà. Donc, ce processus va aider d'abord à attirer l'attention de partenaires par rapport au sujet. L'autorité sera de plus en plus encouragée à aller de l'avant. Et pendant que nous faisons ce projet, nous essayons de regarder par-ci, par-là, qui peut appuyer encore plus ce projet. Même pas le projet, mais l'initiative, quoi. Le projet va finir cette année, mais le problème reste. Donc, il faudra réellement qu'il y ait beaucoup de partenaires. L'année passée, nous avons appuyé le gouvernement à mettre en place une équipe d'experts, n'est-ce pas, qui soit dédiée à la thématique. Donc il y a un peu plus de 40 personnes qui ont été identifiées par les ministères sectoriels, n'est-ce pas, qui ont en charge cette question.
Ce sont des spécialistes.
Oui, des spécialistes. Ils constituent une équipe de réflexion pour conseiller tout ce qu'on fait comme activité dans ce domaine, principalement conseiller le gouvernement. Alors cette équipe, à terme, va devenir, si cela est conforme avec la volonté du gouvernement, devenir la plateforme, n'est-ce pas. Pour le moment, ce n'est pas encore la plateforme parce qu'il faut un décret qui mette cela en place. Donc, cette équipe travaille déjà. Les années passées, les appuis ont consisté à forger un esprit d'équipe, avoir une même terminologie. Donc, il y a eu ces réunions, d'échanges, de débats qui ont commencé. Ça, c'est un. De deux, il fallait qu'ils aient une salle, n'est-ce pas, où ils pouvaient travailler, réfléchir, avoir des équipements. Ça, le projet leur a fourni cela, pendant les équipements, bien sûr, mais la salle a été mise à disposition par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui a donné une salle, et déjà, c'est quelque chose. Au niveau du Sud Kivu, nous avons pu mettre ensemble la protection civile avec les universités, les chercheurs, l'armée, la police, pour commencer déjà à travailler ensemble, c'est déjà quelque chose. Et on a commencé par rapport à la question que vous avez posée sur la cartographie, les études, n'est-ce pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en un mois. C'est des recherches.
Et monsieur le conseiller, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous commençons par cette nouvelle, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a répertorié en janvier dernier 117 enfants victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux dans le contexte de conflits en RDC. Parmi les 117 cas documentés, 59 enfants, 54 garçons donc et 5 filles ont été séparés ou se sont échappés de groupes armés. 23 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans les provinces affectées par le conflit. Durant cette période, la section protection de l'enfant a pu également vérifier le meurtre de ces enfants et la mutilation de 5 autres à la suite d'affrontements entre les FARDC et les groupes armés. UNMAS, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies et ses partenaires, se dote d'une page Facebook. Ils l'ont lancé le lundi 1er février dernier. Objectif, intensifier la sensibilisation auprès de la population sur les risques que représentent les engins explosifs et les armes. À travers cette initiative, UNMAS et ses partenaires espèrent augmenter la portée de leur message, diversifier les bénéficiaires et aussi échanger avec la population.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Environ 715 blessés de guerre soignés par des équipes spécialisées en chirurgie de guerre, 144 enfants réunifiés avec leurs familles, 4200 bénéficiaires de services d'écoute psychologique. C'est en tout cas quelques actions parmi tant d'autres menées par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en RDC en 2015. Le CICR vient de publier un rapport sous forme de bilan intitulé « Faits et chiffres 2015 ». Pour en parler, Jean-Pierre et Lali Coco reçoit pour vous Madame Alessandra Manegon et les chefs de la délégation du CICR en RDC. Madame Manegon est notre invitée de ce dimanche. Suivez.
Madame Alessandra Manegon, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir dans ces studios de Radio Capi au sein de cette année 2016. Bonne année, madame.
Merci.
Et c'est justement pour parler du bilan d'activité 2015 dans un document qui a été intitulé « Faits et chiffres » qui a été publié récemment par le CICR RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bilan? Quels sont les deux ou trois faits marquants de ces rapports que vous avez publiés?
Alors, je voudrais peut-être mentionner, particulièrement important, les 715 blessés de guerre qui ont été soignés par les équipes spécialisées en chirurgie de guerre qui se trouve à Goma, à Bukavu. Peut-être les 4200 personnes qui ont demandé de l'écoute et du soutien psychologique auprès des 26 maisons d'écoute que CICR soutient dans le nord et sud de Kivu au nouveau. Et encore peut-être les 744 enfants non accompagnés qu'on a pu ramener auprès de leur famille, dont 410 enfants associés avec les forces et groupes armés. Je pense que ces trois chiffres-là sont indicatifs parce qu'elles montrent bien à quel point les populations de l'Est subissent encore les conséquences directes du conflit.
Oui, justement, vous parlez de rassembler les familles séparées par les conflits, bien entendu, c'est l'un des domaines de prédilection du CICR. En 2015, vous l'avez dit, votre organisation a pu réunifier 744 enfants et c'est quasiment le même chiffre en 2014, si je m'abuse. Comment peut-on expliquer cette stabilité dans les chiffres, madame?
Tout d'abord, je voudrais juste souligner que sur les 744 enfants qu'on a pu ramener auprès de leur famille, il y en a encore 576 en liste d'attente dans nos listes. Pourquoi cette similitude? Je pense que c'est lié aussi aux capacités des travails aussi du CICR. Les processus de réunification et d'accompagnement de ces enfants au retour dans leur famille est quand même complexe, demande beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a une question aussi des capacités et puis il y a une question liées au contexte, c'est-à-dire que la situation reste encore dans certaines zones très difficiles.
C'est un problème de capacité, alors vous avez fait plus ou moins?
C'est-à-dire on a réunifié 30 enfants en moins que l'année précédente. On a une liste encore d'attente d'enfants qui doivent être réunifiés. Les chiffres varient à cause du travail préparatoire qui doit être fait pour accompagner un enfant. Donc il faut d'abord discuter avec l'enfant, comprendre d'où il vient, chercher la famille. C'est un peu lié à tout ça qui fait qu'il y a encore des enfants qui sont en attente.
Oui, c'est une grande difficulté que vous rencontrez. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette réunification, de la sortie des enfants des groupes armés jusqu'à la réinsertion sociale et familiale et le processus très brièvement, comment ça se passe?
Parmi les enfants non accompagnés, les enfants qui sortent des forces et groupes armés sont une partie. Il y a des enfants aussi qui s'égarent lors de déplacements, qui doivent quand même être accompagnés. Pour ce qui concerne les enfants qu'ils étaient associés avec les forces et groupes armés, ces enfants doivent s'adresser d'abord aux autorités qui sont militaires ou à la MONUSCO protection de l'enfance, qui leur émet les papiers nécessaires d'abord à pouvoir être réunifiés. Les CICR ensuite les rencontrent, ils s'entretiennent avec eux afin de comprendre exactement d'où ils viennent, leur intention de retourner auprès de la famille et de quels parents. Parfois les parents sont aussi pas dans les mêmes lieux, voire parfois les parents sont disparus, il y a un autre membre de la famille que doit être prêt à l'accueillir. Après, il faut retrouver ces personnes, aller parler avec la famille, parfois la réconciliation, parfois les familles sont très contentes de les revoir, d'autres fois pas, c'est des enfants qui sont parfois compliqués. Donc il y a un dialogue avec la famille et enfin, quand le dialogue est abouti, il y a un message Croix-Rouge qui est transmis et à ce moment-là, l'enfant est physiquement ramené auprès de sa famille avec le CICR, quelques mois plus tard, fera un suivi, enfin c'est un suivi de la réunification et du matériel qui peut l'aider l'enfant à se réinsérer et aussi donner un matériel qui est choisi en concomitance entre la famille et l'enfant.
Et c'est un processus, ça peut prendre combien de temps?
C'est très variable, ça peut prendre quelques semaines ou parfois des mois si on n'arrive pas à localiser la famille, notamment en cas des zones où il y a du déplacement, où les familles se sont à nouveau déplacées. C'est vraiment très variable et ça dépend aussi de l'âge. Pour les enfants associés au groupe armé, normalement, sont assez, l'âge est plus avancé, mais pour les enfants simplement séparés, ils peuvent être en très bas âge et donc ils ont des difficultés aussi à expliquer d'où ils venaient.
Oui, en lisant votre rapport cette année, on constate aussi que 16 enfants ont été rapatriés dans des pays tiers contre 30 en 2014. Alors, à quoi attribuez-vous, madame, cette diminution des 30, bien sûr, à 16 enfants?
Tout simplement au changement des contextes, de l'environnement de l'Est, des types de groupes armés et des conflits qu'il y avait en 2013, 2014, et ce qu'il y a eu en 2015.
Ça a diminué un peu.
Oui, ça a changé parce que ça a changé le contexte. Oui, c'est un autre domaine très important des activités de CICR en RDC, et c'est celle d'aider les autorités congolaises à assurer aux personnes privées de liberté dans les prisons de la RDC des conditions de vie humaines. C'est-à-dire que toute personne privée de liberté aille accès à suffisamment de nourriture, à de l'eau et à des soins au moins égales à celles de la population générale. Or, force est de constater que dans plusieurs prisons de la RDC, il y a surpeuplement, il y a beaucoup plus d'effectifs de ce que les prisons sont en mesure de gérer, et donc il y a besoin d'une intervention de la part de CICR pour améliorer les infrastructures, l'accès à l'eau. Les prisons sont aussi, les parcs pénitentiaires très vétustes en RDC. Mais surtout, on constate aussi, comme vous pouvez voir dans nos faits et chiffres, qu'encore il y a des problèmes pour assurer à toute la population carcérale une quantité adéquate de nourriture et des soins de santé appropriés. En 2015, les CICR a nourri presque chaque mois 2800 détenus et a soigné pour malnutrition aiguë 3800 détenus.
Il y a beaucoup à faire et dans ce travail-là d'assainissement de la santé dans les prisons, vous le faites seul ou bien avec d'autres partenaires, avec le gouvernement ou même avec la population locale qui vous accompagne?
On le fait nous-mêmes en partenariat, bien sûr, avec les autorités pénitentiaires, les ministères de la justice ou les ministères de la santé pour ce qui est le soutien aux dispensaires des prisons. Pas vraiment avec les communautés, c'est vraiment avec les autorités en charge du système pénitentiaire.
Enfin, il y a la commission des violations des droits de l'homme, en période de conflit bien entendu. Cela est dû aussi en grande partie par la méconnaissance des notions du droit international humanitaire. Alors, madame, comment le CICR s'est-il employé pour vulgariser et promouvoir ce droit en 2015?
Oui, le CICR travaille justement à la divulgation du droit international humanitaire, tout d'abord auprès des forces armées et des porteurs d'armes, donc à travers des séminaires qui sont faits auprès des FARDC et des autres porteurs d'armes à tout niveau et adaptés au niveau de l'échelon militaire, bien sûr, mais pas seulement, on s'attelle aussi à la diffusion de droit international humanitaire auprès des universitaires, notamment les universités où ils ont des cours de droit. On discute avec les autorités législatives du pays pour l'intégration des traités de droit international humanitaire dans la législation nationale. Enfin, on essaye de disséminer, de diffuser les principes des droits internationaux humanitaires auprès aussi de la population en général, parce que c'est la population elle-même qui doit aussi aider et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans certains
pays. Est-ce que vous avez des priorités pour cette année qui commence?
Oui, les priorités pour cette année, c'est aussi l'assistance directe aux populations déplacées. On a des situations encore très difficiles, des déplacements très récents, donc c'est l'assistance en vivre, assistance à non-vivre et en semences pour pouvoir relancer l'agriculture dans certaines zones de déplacement. Donc ça reste une des priorités. Donc comme je disais, l'assistance directe aux populations, bien sûr continuer à soigner les blessés, ça reste une priorité, et aussi appareiller les personnes qui restent handicapées suite à des actes de guerre, la réunification des enfants, les prisons, l'accessibilité en haut des communautés reste en priorité du CICR, toujours à l'Est. Et bien sûr, aussi une autre priorité pour nous importante, c'est le soutien à la Croix-Rouge congolaise.
Et Madame Alexandra, Radio Capi vous remercie d'être venue dans ces studios.
Merci à vous.
restons à Kinshasa pour la nouvelle de Provence pour parler de la présentation mardi dernier du plan de réponse humanitaire 2016, un plan chiffré à 690 millions de dollars américains pour 7,5 millions de personnes dans le besoin et 6 millions seulement sont ciblés. Agence du système des Nations Unies et gouvernement congolais se mobilisent donc pour apporter encore plus d'assistance aux personnes en situation difficile. Nadine Foulan-Simba nous en dit plus dans ce reportage.
Malgré les avancées enregistrées dans les rétablissements de la stabilité et renforcement des institutions étatiques sur une grande partie du territoire, une majorité du peuple congolais continue à faire face à la crise humanitaire. Ainsi, le plan d'action humanitaire 2016 cherche à mobiliser 690 millions de dollars américains, une somme quasiment identique à celui de 2015. Dr Mamadou Diallo, coordinateur humanitaire, plaide pour plus de mobilisation de fonds pour aider un plus grand nombre.
Le plan qui vous a été présenté cette année a été chiffré à 690 millions de dollars américains pour l'année 2016. Il me plaît de rappeler ici qu'au cours de l'année 2015, nous avions également sollicité nos partenaires pour un montant presque équivalent de 692 millions. Ce plan a été financé à hauteur de 65%, à savoir 450 millions de dollars. Nous espérons cette année que nous passerons la barre des 65% et nous atteindrons 80 ou 90% de financement. Ceci, bien sûr, est un clin d'œil vis-à-vis de nos partenaires. Il va falloir faire beaucoup plus avec peu.
De son côté, l'ambassadeur de France en RDC souligne que ce plan intervient dans un contexte difficile où la communauté internationale doit répondre simultanément à plusieurs crises. Alain Rémy, le nouvel ambassadeur de France en RDC.
Jamais la communauté internationale, au sens large, n'a été autant sollicitée pour répondre simultanément à un aussi grand nombre de crises dans le monde, crises politiques, en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique. Crise liée aux catastrophes sanitaires et naturelles. Les besoins sont énormes et malgré leurs efforts, les bailleurs traditionnels ne sont pas en mesure d'y répondre.
Au gouvernement congolais, il a été demandé d'alléger les démarches administratives par la réduction des taxes y afférentes.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Écoutez maintenant la question d'une collègue de la RTNC Goma et la réponse du porte-parole de la MONUSCO lors de la conférence de presse du mercredi dernier.
C'est Mireille Massita de la RTNC. Nous avons que si vous aviez diminué vos éléments en Nord-Kivu, en Zaké et à la paix. Ce mois-ci, vous avez diminué aussi le salaire de vos staffs, tant nationaux qu'internationaux, en disant que le Nord-Kivu n'est plus la zone rouge. Vous, en tant que le partenaire de la République démocratique du Congo, il y a toujours les enlèvements au Nord Kivu. Il y a des groupes armés encore à l'intérieur de la province. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
La réduction des effectifs de la MONUSCO n'a pas concerné que le Nord Kivu. Et cette réduction n'a pas été justifiée par le fait qu'il y avait la paix. Il faut que je corrige d'abord cette première déclaration que vous avez faite. La réduction des effectifs de la MONUSCO, de la force de la MONUSCO, s'inscrit dans un premier temps dans le cadre de notre stratégie de retrait futur de la République démocratique du Congo. Maintenant, concernant les mesures administratives internes prises au niveau de la MONUSCO, concernant la cessation du paiement de ce qu'on appelle le hazard pay, ça veut dire la prime du danger qui était payée aux gens qui étaient déployés à l'est de la République démocratique du Congo de manière très générale. Ces mesures sont administratives, viennent de New York. Ce n'est pas la MONUSCO qui a procédé à la coupure de ces indemnités. C'est New York sur la base des éléments en leur possession.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Dilanda Kumar Jude Mister, né et grandi à Kinshasa. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Bon, le pluriel commence par le chiffre 2, hein, donc voilà pourquoi j'ai dit je suis père de plusieurs enfants. Mes études, je les ai faites principalement dans la ville de Kinshasa. Après avoir décroché mon diplôme d'État en pédagogie générale, je suis allé faire l'animation culturelle et développement à l'Institut National des Arts, INA, et j'en suis sorti avec un diplôme de licence après 5 ans de formation. Pour le moment, je suis fonctionnaire des Nations Unies. En fait, c'est depuis fin 2007 que j'ai rejoint la grande famille Okapi.
Actuellement, j'ai produit les chroniques Inforoute à 7h28 et 8h28, donc deux fois dans la matinale de la semaine. L'agenda culturel qui passe à 6h20 et 8h20 minutes, toujours dans la matinale de la semaine. Et puis, point de vue des jeunes, qui passe dans l'après-midi, voilà, dans la tranche découverte vers 15h40. Alors chaque jour quand j'arrive au bureau, je commence par appeler tous les chauffeurs du dispatch Radio Capus, donc qui sont en ligne, pour avoir une idée sur ce qui se passe sur les différentes routes de la capitale avant de passer à l'antenne, bien entendu. Alors, juste après mes deux passages à l'antenne, je m'attelle au montage de la chronique Point de vue des jeunes. Donc il faut préparer les lancements, nettoyer les soins avant la diffusion dans la tranche découverte dans l'après-midi. Je termine ma journée en enregistrant l'agenda culturel qui sera diffusé le lendemain. Donc tous les fonds agenda culturel sont enregistrés la veille. Alors les temps libres, je les passe devant la télé. Je regarde beaucoup les matchs de football, donc le football est mon sport favori. J'aime beaucoup le football. Je passe aussi parfois mon temps libre à regarder des films ou à lire. Voilà. Donc je lis beaucoup aussi parfois. Donc si j'ai un petit moment, je les passe en lisant. Voilà. Alors, côté nourriture, je n'ai pas vraiment de préférence de ce côté-là. Je mange tout ce qui se mange, voilà. Donc, tout ce qui est comestible, moi, chez moi, ça passe. Alors, ma musique préférée, pas de préférence non plus de ce côté-là. Donc, je ne suis pas trop fan de musique. et puis, pour ce qui est de mes projets d'avenir, bon, les projets ils sont nombreux, mais bon, je préfère les garder pour moi, pour l'instant. Donc, pour l'instant, chers auditeurs, je ne dirai rien. Ben, pour l'instant, on est encore à la Monisco, donc voilà, en quelques lignes pour ce qui me concerne. Allez, salut à tous les auditeurs de Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
Retenez donc ces deux rendez-vous dans votre agenda. Le 9 février, c'est la journée mondiale pour l'Internet sûr. Et le 12 février, c'est la journée internationale dédiée aux enfants soldats. Et c'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies qui a connu la participation de Bob Landou à la technique. Martin Sebujango l'a supervisé. Jean-Pierre Elali Coco était à la coordination, au reportage et à la réalisation. Tina Kalama, c'est moi. J'étais donc à la présentation. Vous voulez réécouter cette émission? Vous tapez le www.radiocapi.net. Merci encore de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro du magazine des Nations Unies. Ciao, ciao et bon dimanche chez vous.